marcher. Mmh. Et du coup, je dis, oh, mais il y aura de l'eau là-bas. Tu parles, non, l'eau là-bas, elle était marron.
Oui, oui, oui.
Et j'ai dit, si je tombe malade, ça va être horrible. Donc, j'ai commencé à boire le café.
Ah, ok.
Parce qu'il était avec la panela, donc oui, il était très sucré panela, et tout, c'était très bon. Et depuis, ben, je me mets au café.
Et c'est pour ça que tu prends avec le sucre.
C'est pour voilà. ça que je prends avec le sucre. C'est okay. pas le panela, mais.
Oui, oui.
Ouais. Bon, bref, allez, passons aux choses sérieuses.
Vous l'avez entendu, je suis avec Catalina Martin-Chicot, une photojournaliste dont le travail est exposé en ce moment à la Bibliothèque universitaire du Havre. Elle a réalisé un photoreportage en Colombie qui s'appelle Colombie Renaître, entre parenthèses. C'est une exposition qui a déjà été présentée à Visa pour l'image, le festival de photojournalisme à Perpignan, et qui est montée au Havre grâce à l'association Deux Tiers, représentée par Jean-François Berville, un de ses membres fondateurs. Deux Tiers fait tout un travail autour des fake news dans les écoles et a une position qui cherche à défendre l'image d'information. Donc cette exposition Renaître en Colombie présente un effet de renaissance, une renaissance qui a eu lieu chez les ex-guérilleras FARC depuis les accords de paix. Madame Martin-Chicot, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours et de la façon dont ce reportage s'est inséré dans ce parcours ?
Alors, ce reportage, je l'ai pensé très fort. J'ai essayé de le vendre avant d'y aller. Je n'ai pas réussi. Et du coup, je suis partie avec mes propres frais parce que j'y croyais. Je croyais à cette paix. Je pensais que c'était un moment historique pour la Colombie. Les FARC, je les connais depuis que je suis enfant. Que les FARC fassent la paix avec le gouvernement, je me suis dit, bon sang, mais... On vit l'histoire, c'est un moment capital. Comment je peux documenter ça? Il faut que je fasse quelque chose. Mais comment documenter la paix? Ce n'est pas aussi facile. C'est presque plus facile de documenter la guerre que la paix. J'ai appris qu'il y avait des femmes qui tombaient enceintes des guérilleras. Moi, je savais même pas qu'il y avait autant de guérilleras chez les FARC, de femmes.
40%.
Ah, il y a des pics où il y a eu 40%, donc c'est énorme. Et que ces femmes, au moment de la paix, donner naissance à plein de bébés. Je me suis dit, ah oui, quel symbole fort. Et donc, du coup, je me suis dit, voilà, ça va être la petite porte de la petite histoire qui va raconter la grande histoire. C'était très important de raconter la transition. Comment? Eh ben, la transition par cette naissance des bébés qui donne, du coup, la renaissance des parents. Parce que c'est... Bon, je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est des gens qui sont rentrés dans les FARC enfants, à 11 ans, 12 ans, qui ont coupé net avec leur famille, qui pendant toute la durée de la guérilla, les femmes n'ont pas pu tomber enceintes. Voilà, le règlement était très strict. Pas de grossesse, pas d'enfants dans la guérilla. Nous sommes une armée, donc c'est interdit. Donc il y avait une infirmière qui faisait le tour des divisions pour faire des piqûres contraceptives à toutes les femmes en âge d'avoir des enfants. Mais ça ne marchait pas toujours et beaucoup sont tombés enceintes et donc beaucoup ont dû traverser l'épreuve des avortements à 2 mois, à 4 mois, à 6 mois ou des accouchements dans la jungle avec abandon de bébé derrière. Donc des choses très fortes pour les femmes. D'autres ont pas fait de bébé, maintenant la paix arrive, elles ont une quarantaine d'années, elles essayent et c'est trop tard. Donc c'est quand même des sacrifices qui sont gros pour une femme. Et je me suis dit, je vais raconter l'histoire de la transition avec ce symbole de vie après autant de symboles de mort et de combat, quoi.
Il y a également Juliette, étudiante en master ingénierie de projets culturels et touristiques, qui était avec nous. Juliette, je crois que tu avais une question que tu aurais aimé poser à Catalina.
Oui, bien sûr, oui. Et pour moi, c'est surtout, c'est pas facile de rentrer dans les Guaviare en Colombie. Donc pour moi, je me demande sur comment est-ce que tu as réussi à rentrer, parce que c'est pas facile, et dans ce moment de où la paix commençait. Donc je sais pas, comment est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que tu as réussi pour rentrer?
Oui, c'est ça qui est le plus difficile, en fait. Le plus difficile, c'est d'avoir accès aux endroits, aux gens. C'est des lieux... le Guaviare, c'est déjà... San José de Guaviare, c'est une ville qui est... Le Guaviare, c'est une jungle qui longe finalement l'Amazone, donc c'est quand même assez loin. Et de San José de Guaviare, qui est une ville où le bus peut arriver de Bogota, mais de là, c'est encore plus loin, les campements. Et quand je suis arrivée, c'était en 2017, les campements... pour vous expliquer, les FARC étaient complètement dilués dans le paysage colombien. Ils se sont, au moment de l'accord de paix, il y a eu quand même du temps entre on va faire la paix et sortez dans la ville et rentrez dans la société. Il fallait un temps pour que tous les FARC rendent leurs armes, que se mette en place une indemnité de l'État, etc. Donc il y a eu 26 zonas veredales, ce qu'on appelait ça, 26 camps de transit. où ils attendaient avant de rendre les armes. Et donc, moi, je me suis rendue dans 3 de ces 26 zones qui étaient effectivement isolées avec beaucoup de checkpoints pour arriver. J'ai eu le copain d'une copine, d'un copain qui était militant et qui a passé des coups de fil pour me donner l'accès à 3 endroits et qui m'a indiqué comment atteindre ces endroits avec un bus, deux bus, de la voiture, de la marche à pied, ta. Et donc voilà, j'étais à Bogota, je suis restée une semaine, j'ai rencontré ce gars qui m'a expliqué comment arriver et puis après je suis arrivée. Donc une fois qu'on arrive, j'ai pas été rejetée. Ils étaient en période de paix, donc les FARC pendant longtemps ont été contre les journalistes. C'était très difficile de documenter la guérilla. Et là, ils sont en position de paix, donc ils étaient tout à fait ouverts et ne m'ont posé aucun problème au niveau de documentaire, de quoi raconter. Ils n'ont rien surveillé, rien interdit. Donc après, j'arrive dans un camp où les gens vivent, travaillent, se nourrissent, lavent les vêtements et ils font leur vie. Ils m'ont pas non plus accueilli les bras ouverts. Ils sont pas venus vers moi. Donc après, à moi de de rentrer en contact avec les gens. Et puis voilà, j'ai dormi avec les filles dans leur tente et après je les ai suivies dans leur vie.
Vous avez réussi à vraiment créer des liens forts avec les personnes qui sont devenues des sujets pour le reportage?
Oui, je peux pas rester totalement extérieure.
Une des photos de l'exposition a été nominée au World Press Photo, qui est le plus, vous pouvez en parler mieux que moi, ce prix.
Ah mais le World Press, si vous voulez, c'est la crème de la crème au niveau du photojournalisme. Donc je suis hyper honorée, hyper fière de que mon histoire ait gagné un prix et en plus qu'il y ait une photo qui soit considérée comme une des 6 potentielles photo of the year. C'est incroyable quoi.
Est-ce que vous pouvez nous décrire cette photo, éventuellement raconter son histoire pour que les gens qui donc nous écoutent puissent se représenter visuellement ce qu'ils peuvent voir dans cette exposition?
Alors la photo en question, c'est une photo très simple en fait. Elle est tellement simple que ça en devient surprenant. C'est une photo de Yorladis, d'une femme ancienne FARC, qui est enceinte en fin de grossesse, donc elle a le t-shirt remonté et le ventre qui est prêt à exploser, et qui est assise sur une chaise à côté de son partenaire, qui est couché sur le lit après une journée dure de labeur dans les champs. Et ils sont dans leur nouvelle habitation, qui est dans le camp du Guaviare. Entre ma première visite et la deuxième visite, les tentes militaires ont disparu, les armes ont disparu, les uniformes ont disparu. Et ils ont créé un petit village avec des petites cabanes, toutes les mêmes, avec des fils et des sanitaires, qui ressemblaient à un début de petit village, quelque part. Donc, chaque FARC a droit à sa petite maison qu'il décore comme il veut. Et donc, Yorladis et Michael sont dans une des petites maisons qu'ils ont décorées à l'intérieur de manière très très infantile, pas du tout parce que le bébé arrive, mais c'est leur chambre à eux. Donc il y a beaucoup de Walt Disney, de Winnie the Pooh, de personnages enfantins, alors avec quelque chose de très innocent face à des gens qui ont vécu les plus grandes atrocités de la terre. Yorladis est très fière de ce ventre parce que c'est son premier bébé, mais sa 6e grossesse. C'est elle qui m'a fait prendre conscience de tout ce que les femmes devaient endurer pendant la guérilla au niveau des avortements. Son dernier avortement, elle a donné naissance à un bébé mort, pratiquement, qu'elle a dû enterrer en main nue à côté de sa tente avant de repartir pour 8 heures de marche dans la jungle. Donc, voilà, c'est des sacrés bouts de femmes. Donc, ce bébé, comme elle dit elle-même, elle le mérite. Et finalement, voilà, c'est cette photo qui a été nominée.
Si tu peux décrire toute la situation que tu as vécue dans 100 sentiments, ça va être lesquels? Quel sentiment?
Tu me rends les choses faciles, toi. moi, je les ai sentis, ils sont comme perdus. Ils sont optimistes au début, mais perdus parce que ils sont entre deux mondes. Un monde où ils sont au milieu de la nature. Tous les jours, on leur donne des vêtements, on leur donne à manger, ils ont les armes, ils marchent. Ils se battent quand ils doivent se battre, mais ils doivent pas réfléchir à rien d'autre, en fait. Et ils sont coupés du monde, de leur famille, de la société, de tout. Et tout d'un coup, ils sont dans la société qui est un petit peu hostile à leur égard.
Exactement.
Donc, ils se demandent s'ils sont en sécurité dans cette société. Donc, vraiment, c'est des gens qui ont connu l'insécurité dans la jungle, qui connaissent l'insécurité dans la société, qui savent pas quoi faire parce que c'est quoi un travail pour eux, c'est quoi gagner la vie, c'est quoi l'argent, c'est quoi la responsabilité. Donc, c'est comme des enfants, ils sont rentrés à 11 ans et là, maintenant, ils re-rentrent dans une autre. C'est pour ça que vraiment, le titre « Renaître » a tout son sens. C'est des bébés qui naissent et c'est les premiers pas des enfants et c'est les premiers pas des parents, quoi. Donc, c'est ce monde entre deux mondes, quoi. Et là, maintenant, ils étaient optimistes. Maintenant, ils sont pessimistes par rapport à la paix. Il y a 80 anciens guérilleros qui ont été tués. C'est compliqué.
Okay, merci.
Merci beaucoup, Catalina Martin-Chicot, pour ces explications au sujet de l'exposition Colombie Renaître, qui est donc visible à la bibliothèque universitaire jusqu'au 12 avril. La bibliothèque est ouverte de 8h30 à 19h du lundi au vendredi et de 10h à 18h le samedi. Vous pouvez retrouver ces informations sur le site de l'université et de la bibliothèque. L'entrée est libre, vous pouvez également bénéficier d'une visite commentée en prenant rendez-vous. Plus de 50 photos grand format vous attendent avec des 50 sur 33 cm, des 33 sur 90 cm. Nous remercions également l'association Deux Tiers pour cette organisation. N'hésitez pas à aller voir le Facebook de l'association et le site de la BU.
Mon site internet www.catalinamartinchico.com et Catalina Martin Chico pour mon Instagram.